Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle sur les actualités du SEL et aujourd'hui nous sommes de nouveau avec Madame Anaïs Landou pour la deuxième émission consécutive. Alors Madame Landou est chargée de projet eau et santé mais elle est aussi la référente conformité, on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit, pour le département des projets de développement. Madame Landou, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai utilisé le mot conformité. On va peut-être commencer par là. Qu'est-ce que ça veut dire conformité? Parce que conformité à quoi? Conformité de qui? Qu'est-ce que c'est que cette notion de conformité qui est assez importante pour le SEL et qui a pris de l'importance ces dernières années?
Oui, la conformité, c'est un grand mot qui peut faire peur. Mais en fait, derrière, ça veut dire tout simplement les efforts qui sont mis en place pour respecter des normes. Des normes, qu'elles soient éthiques ou législative par rapport au domaine dans lequel on évolue, on travaille.
Alors, le sujet sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est une partie de ces questions de normes et c'est sur un sujet qui est particulièrement important, parfois un peu délicat, et puis sur lequel le SEL veut communiquer dans ces prochains mois, en particulier à l'occasion de la journée du SEL, c'est le thème de la protection. La protection, notamment des enfants et des personnes vulnérables, dans le cadre des actions qui sont soutenues par le SEL. C'est quoi la protection par rapport à la maltraitance ou aux abus, hein? Qu'est-ce que c'est que la protection? Pourquoi est-ce que c'est un sujet important pour une organisation de solidarité internationale?
En fait, la protection, c'est vraiment le fait de s'engager à ne pas nuire aux plus vulnérables, ici en l'occurrence les enfants ou les personnes vulnérables. Et pourquoi ça nous tient à cœur en tant qu'organisation de solidarité internationale? C'est parce que, étant donné que nos actions sont menées pour ces personnes-là, normalement ce sont les premières bénéficiaires de nos actions, les personnes les plus vulnérables, les personnes vivant dans l'extrême pauvreté, on a tout de suite un rapport en fait de force qui fait que on est un peu dans une position où on est supérieur à eux, entre guillemets, j'insiste entre guillemets, il y a une position de supériorité parce qu'on a quelqu'un de vulnérable en face de nous. Et justement la protection, c'est de se dire on veut pas profiter de ce déséquilibre qui est naturel encore une fois, à cause de la vulnérabilité de ces personnes-là.
Donc, c'est la position de vulnérabilité qui fait que, finalement, il y a besoin d'une attention toute particulière sur les questions de protection quand on est dans un contexte de pauvreté.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a presque encore plus, si je puis dire, cette importance pour une organisation chrétienne?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense bien que, même en tant que chrétien, de manière générale, on est appelé justement à faire très attention aux personnes les plus vulnérables. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je pense qu'il y a vraiment souvent cet appel-là de faire attention à l'orphelin, à la veuve, qui sont par définition très vulnérables. Et nous, en tant qu'organisation chrétienne, ça nous tient à cœur parce qu'on a à la fois, au niveau peut-être des normes, comme je disais, législative ou autre, où on a ce rappel de faire attention, de ne pas nuire, mais on a aussi ce rappel au niveau de nos normes bibliques aussi.
Alors, quand on parle de la protection face aux abus, peut-être que pour un certain nombre de nos auditeurs, le mot « abus » évoque immédiatement l'idée d'abus sexuel. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend parler de façon régulière. Et c'est vrai que c'est une des catégories d'abus qui sont les plus importantes. Mais quand nous parlons de protection au SEL, il n'y a pas simplement les abus sexuels. C'est une notion plus large qui inclut les abus sexuels, mais qui inclut d'autres choses aussi. C'est quoi les différentes catégories d'abus?
Oui. Alors, en dehors de l'abus sexuel, il y a d'autres formes de maltraitance. On a par exemple l'exploitation. On ne se rend pas compte, mais quand une personne est très très pauvre, c'est facile de l'exploiter, de tirer profit de sa force physique pour la faire travailler à des fins qui nous arrangent. Il y a aussi le harcèlement, qu'il soit moral ou même sexuel. Il y a aussi les violences, sans parler d'abus sexuels, mais il y a le fait de frapper une personne vulnérable, donc c'est une forme de maltraitance aussi. Donc voilà, pour donner des exemples de types. d'abus, de maltraitance.
Et alors, le SEL a cherché à mettre en place une politique de protection par rapport aux personnes bénéficiaires des actions soutenues. En quoi consiste cette politique de protection?
Alors, cette politique, c'est déjà premièrement réaffirmer l'engagement du SEL, parce qu'il était déjà présent, hein, il était là, je pense, dès le début de la mission du SEL, mais vraiment réaffirmer cet engagement-là et aussi bien spécifier tout ce qu'on met en place à notre niveau, dans la mesure du possible, pour éviter justement toute forme d'abus, que ça soit au niveau du SEL ici en France, mais surtout au niveau du terrain avec nos partenaires locaux.
Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles à suivre ou de procédures qui sont mises en place pour que le risque d'abus diminue.
Oui.
Et votre rôle dans cette politique, puisque vous êtes référente conformité pour les projets de développement et que la conformité, ça inclut la protection, votre rôle à vous, quel est-il ?
Justement, je disais qu'il y avait certaines règles qui s'appliquaient au niveau de nos partenaires locaux, ceux qui sont directement sur le terrain, qui sont au contact tous les jours des personnes les plus vulnérables, qu'ils servent. Et moi, mon rôle, c'est de les accompagner pour qu'ils aient des bonnes pratiques en matière de protection, de s'assurer qu'au travers de leurs activités, ils ne vont pas nuire aux personnes les plus vulnérables. Cela ne veut pas dire qu'ils ne le faisaient pas déjà. Encore une fois, c'est juste un accompagnement en faisant des rappels, en mettant en place justement des procédures qui n'existaient pas. C'est vraiment mettre en place des procédures, c'est plus formaliser des choses qu'ils faisaient déjà. Et quand on parle de procédures, c'est aussi les aider, par exemple, à avoir leur propre politique de protection, comme le SEL a sa politique, eux aussi qu'ils aient leur politique de protection, qu'ils aient des codes de conduite s'ils n'en avaient pas. C'est vraiment cet accompagnement-là que j'essaie de faire.
Oui, alors nous avons déjà eu une émission le mois dernier ensemble dans laquelle vous nous expliquiez que le SEL travaille avec des partenaires locaux qui sont des organisations en tant que telles et pas des antennes locales du SEL. Du coup, c'est pas la politique du SEL qui s'applique à eux, mais c'est leur propre politique et vous les avez accompagnés à la mettre en place.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé un petit peu le processus pour que ils s'approprient peut-être de manière explicite le sujet?
Alors, ça a été assez long, mais ça en valait la peine. En fait, c'est passé par beaucoup de sensibilisation et de formation. Tout d'abord, on a eu des ateliers de sensibilisation que j'ai eu l'occasion d'animer, mais pas que moi seule, avec d'autres collègues, où on a fait participer en fait les partenaires durant ces ateliers-là pour voir ce que eux-mêmes pensaient de la question de la protection des enfants et des personnes vulnérables, donc partir de leur propre réflexion, de leur propre vécu. Et par la suite, après ces ateliers de sensibilisation, on a enclenché en fait des séances de formation pour les partenaires qui n'avaient pas forcément de procédure, que ça soit une politique ou un code de conduite ou des mécanismes de remontée des plaintes.
C'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est un mécanisme de remontée des plaintes?
Alors, un mécanisme de remontée des plaintes, c'est en fait créer un moyen accessible pour une personne bénéficiaire d'un projet ou d'un programme, de pouvoir dire, lorsqu'il y a un problème, signaler que durant telle activité, il s'est passé ceci et ça m'a pas forcément plu. Donc, c'est ça le moyen d'alerte, on va dire.
D'accord. Et donc, les choses se sont mises en place. Est-ce qu'on peut en voir du fruit? Par exemple, je veux dire, est-ce qu'on peut se dire grâce au fait que certaines règles sont mises en place, que certains cadres sont posés, on peut se dire tel abus a été évité?
Alors, ma réponse va sembler un peu paradoxale, mais il faut bien comprendre. En fait, depuis qu'on a commencé, c'est très récent ce travail d'accompagnement des partenaires, mais depuis qu'on a commencé, en fait, on a plus eu de remontées justement d'abus qui n'étaient pas signalés. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des abus au niveau des projets de la part de nos partenaires, mais il y a eu peut-être des fois des situations de maltraitance qui se sont déroulées dans la communauté ou au niveau peut-être d'un bénéficiaire d'un programme, mais qui n'était pas du fait d'un partenaire, je rassure encore une fois. Mais c'est ce type d'informations, on ne les avait pas forcément avant. Et ça, c'est intéressant de voir que ça nous parvient maintenant.
D'accord. Donc, finalement, on libère la parole et ce faisant, on améliore la situation aussi.
Voilà.
Et concrètement, une politique de protection de ce genre, qu'est-ce que ça implique pour une personne qui va se rendre sur le terrain? Quelqu'un de France, peut-être de l'équipe du SEL, peut-être dans certains cas un donateur, peut-être dans certains cas un contact du SEL qui est invité à visiter des projets. En quoi ça va le changer les choses qu'il y a une politique de protection? Est-ce que ça va lui mettre des contraintes supplémentaires et lesquelles? Qu'est-ce qui va changer?
En fait, je ne pense pas que ça va changer beaucoup de choses parce que, encore une fois, le SEL, dès le départ, on a toujours été dans cette démarche de bienveillance envers les personnes les plus vulnérables. Donc, déjà, quand il y avait des visites par le passé, on faisait déjà très attention, on demandait par exemple un extrait de casier judiciaire. Donc il y avait déjà des choses existantes. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, peut-être ce qui va changer, c'est au niveau du partenaire. Si lui doit recevoir quelqu'un venant de France, il a conscience que lui aussi, il a mis quelque chose en place, une procédure, et voilà, il va être peut-être plus regardant. Mais je pense que ça se complète. Il y avait déjà des choses déjà présentes.
Madame Landou, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Donc, ce thème de la protection, qui est un thème particulièrement important pour le SEL, fait l'objet de notre journée du SEL cette année. Nous sommes dans une série de journées du SEL sur le thème de la pratique de la justice. Et cette année, la déclinaison, pratique de la justice et protection des personnes qui vivent dans la pauvreté. Et pour cela, à partir de la mi-janvier, nous mettons à disposition sur le site du SEL, à partir du site du SEL, le matériel de la journée du SEL dans lequel vous trouverez de quoi organiser un culte ou des activités autour de ce thème de la protection, mais vous trouverez aussi des ressources de réflexion pour essayer d'aller plus loin et voir pourquoi en tant que chrétien, ce souci de la protection des personnes les plus vulnérables est un souci important et comment nous pouvons aussi davantage prendre conscience de ce sujet dont on parle peut-être encore trop peu. Et donc, j'invite nos auditeurs qui voudraient en savoir plus à se rendre sur le site internet du SEL, www.selfrance.org. Et donc, à partir de la mi-janvier, nous mettons à disposition les premiers éléments du dossier de la journée du SEL 2024. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.
Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.